qui a pensé l'acte psychanalytique, et il l'a pensé à partir de l'angoisse. Et donc, je vais vous donner, si on a le temps, à la fin, quelques exemples où je pourrais vous montrer comment Lacan m'a surpris, moi, en tant que son lecteur, un de ses lecteurs. Donc, et je crois qu'il vous surprendra vous aussi. Il faut que chacun trouve ce qui le surprend dans cette lecture. Et donc, c'est avant tout ces surprises qu'on peut trouver dans ces textes qui motivent ma lecture à moi, parce que, effectivement, je reviens toujours à Lacan, même si je lis aussi, bien sûr, autre chose, mais je trouve pas toujours cette même surprise. J'ai d'autres auteurs et j'ai d'autres analystes. Voilà. Au début de son séminaire, Lacan fait remarquer à ses élèves ceci. C'est à la page 13. Je ne sais pas si on vous a déjà cité ça, c'est possible, mais donc je vais peut-être répéter ce que d'autres ont déjà dit. Il dit à ses auditeurs, qui à l'époque étaient en majorité des analystes, c'était au début, pas au début, mais c'était après, c'était la 10e année de son enseignement, après l'amphithéâtre s'est rempli de beaucoup d'autres professions, si j'ose dire, des philosophes, des mathématiciens, etc. Alors, donc il dit là, l'angoisse ne semble pas être ce qui vous étouffe, j'entends, comme psychanalyste. Et pourtant, ce n'est pas trop dire que ça devrait. C'est en effet dans la logique des choses, c'est-à-dire dans la relation que vous avez avec votre patient. Sentir ce que le sujet peut supporter d'angoisse vous met à tout instant à l'épreuve. Il faut donc supposer que, au moins pour ceux d'entre vous qui sont formés à la technique, la chose a fini par passer dans votre régulation, la moins aperçue, il faut bien le dire. Mais l'analyste, entrant dans sa pratique, il n'est pas exclu, Dieu merci, que pour peu qu'il présente de très bonnes dispositions à être un analyste, il ressente de ses premières relations avec les malades, sur les divans, quelques angoisses. Donc ce qu'il veut dire ben là, donc, c'est que les analystes chevronnés, malheureusement, perdent un peu de leur angoisse face à l'angoisse du patient, et ils ne devraient pas perdre cette angoisse. Et je crois que c'est une observation tout à fait importante. Alors, un mot sur l'angoisse dans notre société. Je pense qu'elle est effectivement très répandue aujourd'hui, l'angoisse. Et pour des raisons tout à fait avérées. Il y a des raisons que vous verrez tout de suite. Freud a parlé de l'angoisse sociale, mais quand il parle de l'angoisse sociale, il parle plutôt du sujet qui a peur quand il est en société, quand il est avec les autres, et effectivement c'est un symptôme très important. Mais il me paraît qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société très anxiogène, très productrice d'angoisse, et que le capitalisme se nourrit d'angoisse. Il la produit sans le vouloir, n'est-ce pas? Le capitalisme n'est pas fait par, comme on le fait parfois dire, par des méchants gens très riches. Malheureusement, il est fait par nous tous, pas, donc nous contribuons à ça. Et on peut dire, on peut observer ça, c'est pas un secret, qu'aujourd'hui tout le monde a peur de perdre sa place. Si nous avons moins peur que d'autres, c'est parce que les autres dans le tiers monde, dans beaucoup de pays dans le tiers monde, n'ont pas de place du tout et sont dans un vide total, vide social, vide économique, vide politique. Donc il suffit d'y aller. Et à l'opposé de ça, vous avez une autre peur dans les régimes totalitaires, parce qu'il en reste, et même chez nous, il y a des régimes totalitaires, des enclaves de totalitarisme, je vais vous donner un exemple. Dans ces régimes-là, le sujet n'a pas peur de perdre sa place, il a peur de disparaître dans quelques cachots, dans quelques prisons, dans quelques camps. Je pense que le totalitarisme ne s'arrête pas à nos frontières. Je vais vous donner un exemple clinique, et je vais m'étendre un peu là-dessus. Il s'agit d'une jeune femme qui vient de traverser une longue dépression. Où elle avait le plus grand mal de parler, ce qui est embêtant dans une analyse. Cette dépression s'est installée à partir du moment où l'analyse, qui avait déjà duré une année, lui a montré un peu la fonction qu'elle avait ou qu'elle avait jusqu'à ce moment dans sa vie. C'est une fonction symptomatique, elle a fait un symptôme, mais ces symptômes étaient extrêmement utiles, pas tellement à elle-même, mais à sa propre famille. Elle était la protectrice de sa famille. Elle protégeait ses parents, ses frères et ses sœurs, et avant tout, un petit frère tombé dans l'alcoolisme. Ouais, à partir d'un certain moment, cette protection n'avait plus lieu d'être, simplement pour à la fois des raisons analytiques et des raisons, disons, contingentes, historiques aussi. D'une part, son père, qui avait fait un cancer de prostate, a été opéré. L'opération s'est très bien passée. Il a été pris en charge par des bons médecins. Et il était, d'une certaine façon, sauvé. Sa mère, probablement psychotique, au moins avec des troubles très graves, a changé, et j'ai recommandé ça à ma patiente, elle a changé de psychiatre, parce que son ancien psychiatre ne fonctionnait pas très bien, lui donnait des médicaments, mal choisis, où elle était plutôt très très mal, et à partir du changement de psychiatre, son état s'est amélioré. Quant à son frère, alcoolique, qui vivait dans son appartement, je lui ai dit, à un certain moment, maintenant ça suffit, il faut l'amener à une urgence clinique, ça existe, ou alcoolique, où il pourrait être soigné, où il aura une adresse, et à partir de ce moment, elle n'en parlait plus, il s'est un peu éloigné d'elle. Voilà. Et du coup, elle avait perdu cette fonction de protéger tout ce petit monde, toutes ces familles extrêmement fragiles, objectivement très fragiles, Et donc, cette famille qui l'avait hanté depuis son enfance, il faut bien dire. Je vais montrer. Mais, elle était soudain dans un vide complet. Elle n'avait plus de sens dans sa vie. Le sens de sa vie était de protéger sa famille. Et donc, elle est devenue extrêmement angoissée, alors qu'avant, l'angoisse était figée. Elle était pratiquement pétrifiée d'angoisse, mais elle ne ressentait plus son angoisse. Et ce qui était intéressant, c'est que l'angoisse qu'elle éprouvait à ce moment, à partir du moment où elle ressentait ce vide de sa propre existence, elle ne disait plus « je ne peux pas affronter l'autre ou les autres parce qu'ils me jugent ». Ça, c'était la formule qu'elle avait inventée ou qu'elle avait trouvée pour son angoisse pendant ce travail de protection pour sa famille. Maintenant, elle disait clairement « l'autre m'attaque ». Alors, d'où venait cette angoisse? C'était pas une angoisse refoulée, mais une angoisse dont elle ne pouvait pas parler, dont elle ne voulait pas parler, parce qu'elle était complètement absorbée dans ses tâches de faire quelque chose pour les siens. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'elle pouvait me raconter son histoire personnelle. Avant, elle ne parlait que des autres. Son histoire personnelle est assez simple. C'est une métisse qui a grandi dans une des banlieues chaudes de Marseille. Dès ses petites classes, elle était l'objet d'un racisme assez important de la part de ses camarades. Et elle racontait que la communication entre les enfants, ça ne s'est passé pas par la parole, mais par la bagarre. Donc, on s'est tapé dessus, et donc il fallait supporter les coups et aussi se défendre. Et en plus, elle était plusieurs fois témoin d'incidents où tel grand frère d'un élève arrivait en classe et tabassait le prof devant tous les autres. Humilié, donc, le prof, donc il n'était pas question de se faire protéger par quelque autorité que ce soit. Il n'y avait pas. Donc elle était assez seule. Et donc elle s'est créée une sorte de carapace de comme quelqu'un qui doit s'enfermer. Et en plus, sa famille, ses parents, avaient tellement peur pour leurs enfants qu'ils interdisaient de sortir après l'école. Donc ils les envoyaient à l'école, mais après l'école, pas question de sortir dans la cour, etc. À 16 ans, elle avait compris cette fragilité de sa famille et donc elle allait travailler dans un McDo pour financer ses études à elle et pour donner le reste de l'argent qu'elle gagnait à sa famille. Donc cette vie lui a donné une sorte de carapace qui, au moment de cette mise en cause du sens de sa vie, qu'elle avait encore tiré quand elle était déjà installée à Paris, quand elle avait déjà un poste dans une administration tout à fait important, quand ce calabasse s'est fendu, eh bien, l'angoisse éclaté à nouveau, c'était plus l'angoisse figée, l'angoisse pétrifiante, c'était une angoisse beaucoup plus virulente. Et donc, mais l'avantage de cette angoisse, disons, devenue à nouveau fluide, était qu'elle pouvait aborder sa propre parole, elle pouvait trouver une parole à elle et aussi la voie vers le désir porté par cette parole. Alors, c'était un exemple pour vous dire simplement que l'angoisse, aujourd'hui quand même, ce n'est pas seulement le fait du sujet, ce n'est pas seulement engendré par nos propres défauts, par nos ratages, c'est aussi quelque chose de, causé par l'environnement dans lequel nous vivons et beaucoup d'entre nous dans un environnement plus dangereux que ceux des autres. Alors comment Lacan explique-t-il l'angoisse? Je vais pas vous donner des explications très théoriques, je vais plutôt essayer de renvoyer aux exemples un peu imagés, n'est-ce pas? À plusieurs endroits dans son séminaire, il fait allusion, il renvoie à l'histoire de l'œil, aux yeux. Il y a effectivement chez Freud une angoisse d'yeux. Mais c'est une angoisse, chez Freud, une angoisse pour ses yeux, pour nos yeux, que nous avons effectivement, parce que nos yeux sont des organes extrêmement précieux, et donc nous y faisons attention, et donc l'angoisse pour nos yeux, eh bien, elle a une composante psychique que Freud a donc appelée l'angoisse de castration. Mais chez Lacan, c'est un peu plus complexe. Il évoque à un certain moment de son séminaire un récit de E.T.A. Hoffmann, que vous avez probablement lu, qui s'appelle « L'homme de sable ». C'est une petite nouvelle assez angoissante, il faut bien le dire. Alors, je ne vais pas résumer l'histoire, mais je vais simplement vous dire qu'il s'agit d'un jeune homme qui, dès son enfance, rencontre cette angoisse des yeux, simplement parce qu'à un certain moment, il épie la conversation entre son père et un avocat mystérieux, assez méchant, et menace, on ne sait pas très bien ce qui se passe entre le père et cet avocat, qui menace un peu son père, et le petit garçon qui observe cette conversation fait un bruit, et d'un seul coup cet avocat découvre sa présence et il le menace de lui arracher les yeux. Et à partir de ce moment, donc, il a été surpris par cet homme méchant, et bien sûr, c'est un événement qui va le marquer. Et plus tard, dans sa vie, il est étudiant, il rencontre à nouveau cet homme qui s'est complètement transformé et qui est maintenant une sorte d'opticien et constructeur d'automates. D'automates, c'est-à-dire des, au 19e siècle, les automates étaient des poupées. Des poupées qui, ou des marionnettes, n'est-ce pas ? Et des poupées qui avaient un certain nombre de fonctions incorporées et qui pouvaient marcher, qui pouvaient, etc. Et donc, ce monsieur a construit une poupée qui ressemblait beaucoup à une jolie fille. Et l'étudiant, donc le héros, qui est assez perturbé, qui, il faut bien dire, qui est sans doute psychotique, il tombe amoureux de cette poupée. Parce qu'il la voit de loin, à la fenêtre d'un immeuble en face, et il pense que c'est un être vivant. Et il tombe amoureux de cet être artificiel qui le regarde. Et mais elle le regarde avec des yeux morts, parce qu'elle ne les vit pas. Regardé par cette poupée, il se précipite dans le vide, il tombe de la fenêtre, il se défenestre, donc il est mort. Voilà. Et il s'écrase dans la rue. Et donc on peut dire que cette poupée a une certaine façon l'a hypnotisé, a capté son désir. Et Lacan va donc interpréter ce récit. Il dit de cette poupée quelle est l'image de ce jeune homme, l'image en miroir de ce jeune homme. Il a capté son désir et elle est, étant un automate, elle se trouve donc non pas dans notre réalité, mais dans l'espace que Lacan appelle l'espace de l'autre, avec un grand A. Qu'est-ce que c'est l'espace de l'autre? L'autre, c'est l'autre de la science, l'autre du langage, l'autre de la vérité. Cet autre qui, d'une certaine façon, nous juge, qui dit si nous disons vrai ou faux, et donc qui est un peu opprimant à notre endroit. Mais, donc, c'est aussi l'autre, bien sûr, des lois scientifiques. C'est pourquoi Lacan dit l'automate est, d'une certaine façon, un produit de l'autre. Le vieux qui a construit la poupée, une sorte de sorcier, un vieux sorcier, donc il joue avec les lois de l'autre, les lois de la science. Alors il y a seulement une chose qui manque à l'autre, qui dispose de toute cette panoplie de lois, de règles, etc., c'est-à-dire c'est la jouissance. La jouissance, c'est nous qui devons la contribuer à l'autre. C'est nous qui, il nous demande cette jouissance, de certaine façon. Et donc, l'idée de Lacan était que quand cette poupée a regardé le jeune homme de l'immeuble en face, de la fenêtre, c'est lui qui, d'une certaine façon, qui lui a offert ses yeux à lui. Donc, il se voyait avec ses yeux, bien sûr, mais il voyait dans cette poupée ses propres yeux. Et c'est ce moment où la place où l'autre manque, c'est-à-dire il n'a pas Dieu, n'est-ce pas, l'autre. Parce que même encore aujourd'hui, les informaticiens savent très bien qu'il est extrêmement difficile d'imiter un œil humain ou même animal ou un robot. Donc c'est une des grandes difficultés. Il y a bien sûr des tentatives de faire ça, il y a des mécanismes qui peuvent fonctionner un peu, mais ça reste quand même un peu au niveau de la caméra, et ça n'atteint pas la qualité de l'œil humain. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui encore, nous sommes dans cette situation où nous devons, d'une certaine façon, donner nos yeux à l'autre. Et à partir du moment où le jeune homme a vu ses propres yeux au lieu de l'autre, là où l'autre manque, il était saisi d'une angoisse extrême. Et c'est cette angoisse qui l'a poussé dans le vide. Donc, l'idée de Lacan, c'était, j'ai illustré ça par cet exemple-là, simplement pour vous dire son idée, c'est l'angoisse surgit quand la place du manque, la place où l'autre manque est soudain occupée par un objet qui nous appartient et que nous voyons ou que nous entendons. Et c'est là où c'est cette sorte d'obturation de cette place vide qui cause notre angoisse. Je vais vous donner un deuxième exemple où il s'agit également de l'œil. C'est justement dans cette leçon 12 du séminaire, à la page 190, où Lacan parle d'Œdipe. Pas de l'Œdipe de notre complexe à nous, dont certains philosophes se moquent aujourd'hui, ils ont tort, mais du roi Œdipe, celui qui n'avait lui-même, le roi Œdipe n'avait pas de complexe d'Œdipe. Donc, c'était quelqu'un de, disons, beaucoup plus courageux que nous. Eh bien, lui aussi, à l'acmé de sa crise, va rencontrer ses propres yeux. Mais je suis quand même obligé de passer un peu par son histoire. Donc, vous savez que Œdipe devient à un certain moment le roi de Thèbes. Et ben, s'il devient le roi de Thèbes, à partir du moment où il a répondu à la question du Sphinx, et le Sphinx qui a, d'une certaine façon, embêté la ville de Thèbes, et qui a causé la maladie, la peste, etc., à Thèbes. Et donc, il fallait éliminer le sphinx, et Œdipe est arrivé en répondant à l'énigme posée par le sphinx lui-même. Et donc, à partir de ce moment, il pouvait entrer dans la ville, et il s'est donc marié avec la reine de cette ville, le roi étant décédé, et vous savez aussi que la reine, Jocaste, était donc sa propre mère, Œdipe. Alors, donc, pour comprendre tout ça, il faut faire un tout petit détour. Je ne sais pas si vous l'avez sans doute en tête, mais je vous rappelle ces choses-là. Édipe, enfant, était l'objet de l'inquiétude de ses parents et avant tout de son père Laios. Pourquoi ? Parce que Laios, pour des raisons que je ne vais pas développer, a demandé à l'oracle de Delphes ce qui sera le destin de cet enfant, et donc l'oracle lui a prédit qu'il sera donc tué par ce fils qui lui venait de naître. Donc du coup il a exposé, il a été trouvé par un homme simple qui l'a donné au roi et à la reine de Corinthe. Le roi s'appelait Polybos, et le roi de Corinthe a donc accueilli Édipe, enfant, et l'a élevé. Et donc, pour Édipe étant au courant de cette histoire de l'oracle, il fuit à un certain moment la cour de Corinthe pour ne pas tuer son prétendu, son père adoptif, dont il ne sait pas qu'il n'est pas son vrai père, et il fait un voyage à pied où il va rencontrer son vrai père, son géniteur, le nommé Laios, et il va le tuer. Donc, il réalise la prédiction de l'oracle. Et ensuite, il entre dans le Thèbes grâce à sa réponse donnée au sphinx, et il se marie avec Jocaste, il couche avec elle, il fait des enfants, et à un certain moment, ça va à nouveau mal à Thèbes, la peste se déclare à nouveau, et il faut à nouveau interroger l'oracle. Et l'oracle va cette fois-ci répondre d'une façon très énigmatique, très floue. Il dit simplement qu'il faut venger le meurtre par le meurtre. Bon. Eh bien, Édipe étant le maître de la cité, Sophocle dit Édipe Tyrannos, donc le tyran, ça n'a pas tout à fait le sens que nous avons, notre sens de tyran, mais il n'a pas tout à fait le pouvoir de remplir cette condition de la libération de la ville de la peste, mais Édipe est poussé par un désir de savoir, par une passion de savoir, qui lui est reproché par certains penseurs, par certains poètes, comme le poète Hermann Hölderlin, qui dit Édipe a un œil de trop. Et cet œil de trop, c'est bien sûr un symbole de savoir. Et donc, il a la passion de savoir, et il veut savoir plus sur l'identité de l'assassin, qui a causé, effectivement, qui a réintroduit la peste à Thèbes. Et donc, il fait venir le voyant aveuglé, comme le dit Lacan, Tirésias, patron de tous les psychanalystes, et parce qu'il sait dire non pas seulement l'avenir, mais aussi le passé. Et donc, Tirésias va lui donner des bribes de son savoir. Il ne veut pas lui donner tout ce savoir, parce que c'est extrêmement gênant. Et parce qu'il sait que c'est la vérité, de toute façon, mais Édipe va découvrir ce qu'il était vraiment, ce qu'il est, c'est-à-dire l'homme qui a tué son père et qui couche avec sa mère, et qui a même fait des enfants avec cette femme, avec Jocaste. Et bon, à partir de ce moment, Jocaste elle-même, elle est complètement effondrée, et elle va s'épandre, et à partir de ce moment, Édipe va s'arracher les yeux. Et après, il est expulsé de la ville, et il est amené par sa fille Antigone vers son destin ultérieur. Et ce moment où Édipe s'arrache les yeux est tout à fait important pour Lacan, parce que Lacan nous dit ceci, c'est à la page 190. Alors, c'est, je vais vous lire le passage parce que ça vaut la peine d'être récité. C'est lui qui a possédé l'objet du désir et de la loi, l'objet du désir étant donc Jocaste, et de la loi. C'est lui qui a joui de sa mère, Édipe pour le nommer, fait ce pas de plus, il voit ce qu'il a fait. Donc il voit de trop. Vous savez ce qui arrive alors. Comment dire ce qui est de l'ordre de l'indicible et dont je veux pourtant faire surgir l'image. Il voit ce qu'il a fait, ce qui a pour conséquence qu'il voit. C'est le mot devant lequel je bute, l'instant d'après ses propres yeux, boursouflé de leur tumeur vitreuse, au sol confus à ma ordure, puisque pour les avoir arrachés de leur orbite, ses yeux, il a bien évidemment perdu la vue. Et pourtant, il n'est pas sans les voix. Les voix comme telles, comme l'objet cause, enfin dévoilé de la dernière ultime, non pas coupable, mais hors les limites, concupiscence, celle d'avoir voulu savoir. Donc, Lacan dit, Édipe voit ses propres yeux par terre. Ensuite, il dit, la tradition dit même que c'est à partir de ce moment qu'il devient vraiment voyant. À Colonne, où il est mort, donc, il voit aussi loin qu'on peut voir, si loin en avant, qu'il voit le destin futur d'Athènes. Quel est le moment de l'angoisse? Est-ce le possible de ce geste par où Édipe s'arrache les yeux, en fait le sacrifice, les offre en rançon de l'aveuglement où s'est accompli son destin? Est-ce cela l'angoisse? Est-ce la possibilité qu'à l'homme de se mutiler? Non. C'est proprement ce que je m'efforce de vous désigner par cette image. C'est l'impossible vu qui vous menace de vos propres yeux par terre. Donc, c'est pas, l'angoisse n'est pas de s'arracher les yeux, c'est de voir vos propres yeux par terre. Donc, impossible vu, et cet impossible vu est donc pour Lacan lié, c'est l'ultime acte du savoir. Et le début du savoir d'Édipe en tant que voyant. Après, il connaît le futur, l'avenir. Bon, donc, là aussi, cette histoire des yeux, et vous savez que c'est un grand thème dans la littérature, même chez Nerval et d'autres grands poètes romantiques. Voilà. Donc, il faut bien dire que si Lacan insiste tellement sur cette histoire des yeux, c'est pas parce que c'est dans les mythes et dans la tragédie grecque, c'est aussi dans l'inconscient, n'est-ce pas? Sinon, ça n'aurait pas tellement d'intérêt, et on peut se demander si l'inconscient était avant, ou si c'est les mythes qui ont laissé infiltrer ça dans notre inconscient. Alors donc, je vais vous donner un exemple clinique. Il s'agit d'une dame qui m'a raconté récemment le rêve suivant. Elle se trouve dans la ville balnéaire où elle passe ses vacances. Et elle fait les courses et elle prend un taxi. Il est tard, la ville est presque vide et elle demande à ce taxi de la ramener chez elle. Mais le chauffeur de taxi ne trouve pas son chemin ou feint de ne pas le trouver. Il rate ainsi toutes les voies qu'elle lui indique, mais à la fin, il passe par un rond-point qui n'est pas très, très éloigné du centre-ville et d'où elle peut marcher. Elle peut aller à pied et elle lui demande de s'arrêter. Et parce qu'elle pourrait finalement rejoindre sa maison de ce point-là, mais il ne s'arrête pas, il accélère, et à un certain moment, à son grand effroi, elle voit les yeux de cet homme dans le rétroviseur, et elle ne voit pas des yeux d'un homme, elle voit plutôt les yeux d'une sorte de loup. Une sorte de mélange entre un être humain, un homme et un loup. Bon. C'est donc un cauchemar. Un cauchemar assez horrible. Et donc, il l'amène. Il ne s'arrête pas. Mais elle se réveille à ce moment. Alors, cette personne. Qui a raconté ce rêve, elle, c'est quelqu'un d'assez posé, et je me suis demandé pourquoi ce cauchemar, pourquoi elle rêve de cette sorte de bête sous les aspects d'un homme. Donc là encore, vous avez les yeux derrière le miroir, n'est-ce pas, dans l'espace de l'autre, n'est-ce pas. C'est comme ça que Lacan désigne le lieu de l'autre dans ce qu'il fait. Je sais pas si on vous a expliqué le schéma optique, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Simplement, c'est le lieu qui n'est pas dans l'espace du sujet, qui est du côté de l'autre. Et quant à cette dame, elle est quelqu'un de très bien, assez, disons, un PCBG, mère de famille, professeur à l'université, quatre enfants, des excellents élèves, etc. Donc, un mari, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Belle maison, voilà, maison de campagne, voilà. Et pourtant, donc, avec des petites déceptions aussi.